Pop Fiction sur France Inter.
Un livre qui fait un malheur dans les librairies autour des fourmis, mais on va en reparler dans quelques instants.
La Fontaine lui-même n'y aurait pas pensé. Bernard Werber, si.
C'est traduit en 30 langues. En Corée, c'est une vedette nationale. Dès qu'on dit l'homme des fourmis, tout le monde sait qui c'est.
Bonsoir Bernard Werber.
Bonsoir.
Vous avez 53 ans et vous êtes né à Toulouse.
Ouais.
Comme moi, c'est très bien.
Ah,
vous avez publié
Place Saint-Étienne.
Hein?
Place Saint-Étienne.
Quai de Tunis. On va vous laisser. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont Les Fourmis. Vous êtes donc une vedette en Corée. Alors, je vous avoue que je n'avais jamais lu l'un de vos livres, sans doute avec quelques a priori. Et je dois dire que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à lire votre dernier roman de science-fiction, La Voix de la Terre, publié chez Albin Michel. C'est le nouveau tome de votre cycle, Troisième Humanité. Vous n'êtes peut-être pas un grand styliste, mais vous êtes un sacré raconteur d'histoire où l'on apprend pas mal de choses. Et de nombreux lecteurs d'ailleurs affirment apprendre énormément en vous lisant, même si je sais que le but premier, c'est de raconter une belle histoire d'amour.
Oui, le but premier, c'est de raconter une belle histoire d'amour, si ce n'est que j'essaie de trouver des angles un peu originaux. Donc là, c'est une belle histoire d'amour entre une espèce, l'espèce humaine, et une planète qui s'appelle notre Terre, Gaïa. Et c'est ça qui m'amusait, c'était Roméo et Juliette existent. Donc il y a deux héros, David et Hypatie, qui sont des humains normaux, qui vivent une grande histoire d'amour, j'allais dire normale. Et puis il y a David, qui en tant que représentant de l'humanité, va créer la communication enfin avec la planète.
Alors quelle est l'ambition de ce cycle romanesque Troisième Humanité, c'est le dernier tome. Quelle est l'ambition qui se dégage au bout de ces 1500 pages?
Changer le monde et réfléchir sur où évolue l'espèce. J'ai l'impression, chaque fois qu'on regarde les actualités, on a une vue sur le court terme. On s'affole, il y a la crise économique, il y a l'Ebola. On est comme une sorte de troupeau fébrile et énervé. Et j'ai envie de penser qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens qui montent au haut du mât, des vigies, qui regardent un peu plus loin, qui disent « Bon, ok, il y a des problèmes maintenant, mais regardons plus loin. Que se passera-t-il dans 50 ans? Que se passera-t-il dans 100 ans? Dans 1000 ans? Dans 1 million d'années? Prenons un peu de recul et on comprendra mieux ce qui se passe actuellement. » Et je crois que c'est le travail des auteurs de science-fiction, c'est donner de la perspective, donner du recul. Et en effet, je ne revendique aucun titre de styliste, je revendique un titre de raconteur d'histoire et de personne qui transmet des informations.
Allez, je vous propose d'écouter un extrait de votre nouveau roman, La Voix de la Terre, et c'est lu par Jérôme Boulet.
Je suis âgé de 4 milliards 500 millions d'années et je me sens encore jeune. J'ai accompli de nombreuses prouesses durant mon existence. J'ai fait apparaître la vie sur ma surface, puis je l'ai diversifiée. J'ai fait surgir, parmi ce foisonnement végétal et animal, l'intelligence. Mes tout derniers spécimens expérimentaux se nomment eux-mêmes humains. Ce sont de simples parasites que j'ai fait évoluer. Si on devait les décrire, on dirait que les humains sont des petites bêtes tièdes, à peau fine et à crête de fourrure sur le sommet de la tête. Ils se tiennent en position verticale et font du bruit avec leur bouche. Ils sentent le champignon. Quand on les perce, ils sortent du jus rouge. En quelques millions d'années, les humains se sont mis à se reproduire à grande échelle et à grouiller sur ma croûte. Ils se sont organisés, ont bâti des nids de plus en plus larges. J'ai pensé à les éliminer. Puis j'ai choisi au contraire de les aider à progresser.
Alors Bernard Werber, ça c'est un monologue de la planète Terre, ouais. Car un jour, la Terre s'est mise à penser comme les humains. Alors c'est un postulat un peu farfelu. Pourquoi avoir pris ce point de vue de la Terre?
Déjà pour qu'on comprenne que on est en train d'abîmer quand même un sacré miracle, une sacrée merveille. On parle tout le temps des extraterrestres, mais imaginons qu'il n'y ait pas extraterrestre, ça veut dire qu'il n'y a peut-être que cette Terre et que si on la fout en l'air, il n'y aura plus rien. Donc je crois que notre espèce est responsable. Il y a une phrase qui revient dans le roman, c'est « Nous sommes passés d'une évolution subie à une évolution choisie ». Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus dire « Ah, on n'y est pour rien ». On sait enfin ce qui se passe et on a les moyens d'agir. Donc notre génération va décider si on sauve ou si on détruit la planète. Et je trouve que c'est un énorme pouvoir, une énorme responsabilité. Donc c'est aussi pour ça que j'écris des livres, pour qu'on utilise bien ce pouvoir.
Et la Terre nous compare à des fourmis qui grouillent à sa surface.
Non, plutôt des puces. Elle nous prend comme des parasites qui sucent son sang.
J'ai cru lire des fourmis, mais...
Non, les fourmis, c'est plutôt... l'idée, c'est que... en effet, ça revient souvent dans le roman. C'est il y a une espèce plus ancienne qui s'appelle les fourmis, qui sont apparues il y a 120 millions d'années. C'est un des vieux dada. Et nous sommes depuis 7 millions d'années. Donc nous allons probablement faire le même chemin, tout simplement parce que nous sommes une espèce plus jeune.
Alors au début du roman, la Terre est menacée par un astéroïde, Theia 13, un astéroïde en forme de Y qui mesure 28 km de long et qui fonce sur nous à 15 000 km/h, avec pour conséquence évidemment l'extinction de 90% de la vie à la surface de la Terre.
Ça s'est passé 5 fois, ça. Ça s'est réellement déjà passé. Il y a eu 5 grandes extinctions d'espèces. Et à chaque fois, les espèces survivantes ont été ceux qui sont les plus petits, les plus féminins et les plus solidaires. Donc il me semble que plus petit, plus féminin, plus solidaire, c'est la voie d'évolution et de survie. Et oui, c'est ça que je transmets dans mes romans.
Et oui, le sort de l'humanité est entre les mains des micro-humains. Vous l'avez dit, c'est une espèce plus petite, plus féminine, plus solidaire. Bref, la troisième humanité.
Qui sont inventées par mes héros. Ils n'existent pas encore, mais j'imagine que dans le futur, on pourra... Enfin, on peut déjà techniquement faire des petits humains, des schtroumpfs. Là, ils sont encore plus petits. Ils sont 17 cm, ça fait un doigt, quoi. Et ces êtres humains ont un avantage, c'est qu'ils sont plus résistants et mieux adaptés à ce monde.
Alors, qui est votre héros principal, le professeur David Wells? C'est un homme d'âge mûr, sans cesse agité par 1000 pensées. Alors, au début du roman, c'est un scientifique qui n'est plus que l'ombre de lui-même, alors qu'il a été quelqu'un d'éminent dans les précédents romans.
Oui, alors d'abord, je dois préciser que La Voix de la Terre peut se lire sans avoir lu les précédents romans.
C'est ce que j'ai fait.
Voilà, j'ai essayé vraiment de faire... C'est un roman dont le principal héros est la planète même, qu'on a entendu au début. Je vous remercie d'avoir fait parler. J'ai entendu sa voix, je me disais... J'imagine moins angoissante quand même, cette voix. Et pas avec la petite musique angoissante derrière. Je verrais plutôt de la musique philharmonique. J'imagine ça comme une vieille dame, moi, la Terre.
Et donc, on n'avait pas ça sous la main, désolé.
Une dame de 50 ans, voilà. Puisque, donc, elle a 4,5 milliards d'années. Normalement, la Terre va vivre 10 milliards d'années. Donc, elle est à peu près à mi-parcours. Et c'est le héros principal, c'est Gaïa. Mais à côté de ça, il y a David. David, c'est un humain normal. C'est-à-dire, c'est un humain. Il a eu une période de gloire, en effet, dans les deux précédents romans. Mais maintenant, il a pris un peu de bedaine. Il s'est embourgeoisé. Et il vit sur ses lauriers, comme beaucoup de scientifiques. Et sa problématique, c'est maintenant se remettre en question. Et il va découvrir, grâce à la rencontre avec une jeune femme qui s'appelle Hypatie
Kim, une étudiante en archéologie coréenne.
Voilà. Il va découvrir qu'en fait, les pyramides servent de téléphone pour discuter avec la planète. Ça existe évidemment bien avant les Égyptiens. Ça, c'est la réalité. On pensait que les pyramides avaient 2500 ans. On sait qu'elles ont 5000 ans. Donc, c'était une ruine qui traînait au milieu de la civilisation égyptienne dont personne ne savait le sens. Donc, j'ai pris comme hypothèse que c'est le téléphone qui permet de discuter avec la planète et de lui demander comment elle va. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle veut? Parce que quand j'entends les écologistes, j'entends des gens qui nous parlent de morale, mais qui se demandent jamais, au fait, c'est quoi l'intérêt personnel de la planète? Et je crois que la meilleure manière de le savoir, c'est de la questionner et de lui dire, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Comment on pourrait fonctionner ensemble au lieu de fonctionner juste l'un contre l'autre?
La Voix de la Terre, c'est un roman d'anticipation. Pour vous, quel est le but de la littérature d'anticipation? C'est quoi? C'est nous faire peur? Provoquer une prise de conscience?
Provoquer une prise de conscience, oui. Nous faire peur, c'est un moyen, mais en général, j'en abuse pas. En général, tous mes romans finissent bien pour que le lecteur ait un petit sourire quand ça finit et qu'il se dise « Ouais, je peux agir à mon niveau pour que ça aille dans la bonne direction. » Je crois que... C'est dommage qu'en France, on ne mette pas plus en valeur ce travail de la science-fiction. On a quand même eu des bonhommes formidables comme Jules Verne, Barjavel, et pour moi, l'un des plus intéressants qui est Pierre Boulle, qui a fait La planète des singes. Et c'est de la philosophie, ce n'est pas la science-fiction. Souvent, la science-fiction, c'est un tiroir dans lequel on range une sorte de littérature pour les adolescents. Et c'est une énorme erreur. C'est là que se passent peut-être les grands débats, les grandes réflexions philosophiques. Un roman comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley a changé le monde et a participé au débat politique, notamment sur la génétique. Et je crois que nous devons avoir une science-fiction en France forte, présente et qui permet d'ouvrir ce débat. Actuellement, ce n'est pas le cas du tout.
Et il ne faut pas oublier que le roman d'anticipation exacerbe toutes les pathologies d'une époque.
Oui, et ça le remet en perspective. Y a cette idée que nous sommes comme des gens dans une voiture qui regardons que devant la route, mais on n'imagine pas ce qu'il va y avoir après le virage et encore plus loin. Et le fait de réagir que dans le court terme, en fait, ça nous coince. Et ça nous empêche d'évoluer. Maintenant, il faut se dire, nous sommes une espèce en évolution. Le premier être humain n'est peut-être pas encore apparu. Nous sommes le chien dans mon camp. Aidons-le à apparaître. Donnons-lui la possibilité d'avoir de l'eau, de l'air et vivre sur une planète où tout le monde ne se tape pas sur la gueule. Et David et Hypatie, mes deux héros, ont au moins cet avantage de prise de conscience. C'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure prise de conscience, je crois que c'est le sens même d'un bon roman de science-fiction ou d'un bon roman de philosophie-fiction.
Comment avez-vous composé ce roman d'un point de vue de la structure narrative ?
Technique.
Oui, il y a beaucoup de chapitres courts et puis c'est une composition proche de la nouvelle. Il y a des chutes à chaque fin de chapitre.
Ça. En fait, pour moi, un bon roman, ça ressemble à un tour de magie. D'abord, on commence par préparer le lapin qui va sortir du chapeau et après, il y a tout le cheminement, la diversion qui va faire qu'on ne voit en se doute pas qu'il y a un lapin coincé au fond du chapeau. Donc, je commence toujours par écrire la fin et après, je me débrouille pour faire un système de ce que les Américains appellent page-turner, c'est-à-dire que les gens sont tout le temps pris en haleine, tout le temps pris à contre-pied. Et pour moi, la première politesse d'un écrivain, ce n'est pas de faire une jolie phrase, c'est de surprendre. Faire que les gens, au bout d'un moment, aient un effet addictif, il n'y a aucun effort pour entrer dans le roman. Et une fois qu'ils sont dedans, ils se demandent vers où on va les balader, vers quelle découverte ils vont avoir à la page suivante.
Il faut aller vite. Je crois que vous dites qu'un bon roman, c'est avant tout un bon squelette.
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là où moi je mets le plus d'efforts, c'est faire un truc qui tienne droit.
La bonne structure.
Une bonne structure. Après, je dirais, j'ajoute les organes, c'est les grandes scènes spectaculaires. Après, je mets les muscles, les petites scènes qui relancent. Et une fois que tout ça tient bien debout, je mets la peau. Et la peau, c'est ce que vous voyez. Comme quand je vous parle, je vois votre peau, je vois pas votre squelette. Mais pourtant, si vous n'avez pas de squelette, vous effondrez. Eh ben, un roman, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, d'abord, on soigne toute la structure. On fait ce système qui va faire qu'on va avoir le maximum de surprise à scène finale et après on met dessus, on essaie de faire le plus joli possible, mais le côté joli n'est pas l'élément qui me semble le plus déterminant pour placer son énergie, c'est vraiment l'effet de surprise qui est important.
Et Bernard Werber, vous revendiquez haut et fort d'être un auteur populaire.
Oui.
La critique littéraire ne vous épargne pas parfois.
Oui.
Est-ce que vous en souffrez ?
Non, parce que mon éditeur m'a dit, il y a deux cas, soit tu plais aux critiques parisiens, je précise bien, et soit tu plais au lecteur. Mais si tu plais à l'un, tu vas déplaire automatiquement à l'autre. Alors qu'est-ce que tu choisis ? J'ai dit, ben écoute, mon camp, c'est les lecteurs, parce que j'écris pour être lu par des lecteurs et pas pour avoir des prix, ni des petits colifichets, ni rentrer à l'Académie française. Donc à ce moment-là, il m'a dit, eh ben écoute, apprête-toi à avoir soit l'ignorance, soit les attaques de ce petit milieu, parce qu'il a besoin d'exister, et ça veut dire que tu les court-circuites sans passer par eux, donc ils vont détester. J'ai dit, je suis prêt à payer ce prix-là du moment que j'arrive à toucher le grand public, et c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'en dans la vie, on a ce qu'on veut, donc tout va bien.
Bernard Werber, pourquoi écrivez-vous ?
Parce que je sais faire que ça. Quand j'étais petit, j'écrivais, ça m'amusait, ça me détendait, ça me faisait du bien. Et seul sur une île déserte, même sans éditeur, sans lecteur, je continuerai d'écrire. J'ai besoin de faire ça comme on a besoin de manger, de respirer. Je viens de raconter tout le temps des histoires. Si je ne raconte pas d'histoires, je crois que je deviens fou. Donc c'est une pathologie chez moi.
Merci beaucoup Bernard Werber d'être venu sur France Inter. La Voix de la Terre, c'est le dernier tome du cycle Troisième Humanité qui vient de paraître chez Albin Michel. Moi j'ai adoré les petites définitions de l'encyclopédie que vous intercalez tout au long du livre. C'est absolument formidable. Il y a des aphorismes, des informations diverses et variées. C'est génial.
En fait, je me dis, une fois que le livre est terminé, il faut que mon lecteur puisse raconter des trucs rigolos à table à sa famille. Et il dit, tu sais pas ce que j'ai lu dans le livre, et puis ils sortent des trucs vraiment surprenants, que ce soit de l'histoire, soit des recettes de cuisine, soit des blagues, soit des tours de magie. Mais ça vient aussi de, j'ai eu un passé douloureux de journaliste dans lequel j'ai accumulé plein de petites infos rigolotes. Je me suis dit, tiens, je vais les recycler dans mes romans. Comme ça va amuser peut-être mes lecteurs.
Merci beaucoup, Bernard Werber. Merci.